Midi Martini.
On est grognons aujourd'hui. On va mettre une petite dose de martini supplémentaire. Je sais pas pourquoi il fait tellement beau. Plusieurs diront qu'il n'y a pas de raison et vous avez tout à fait raison. Heureusement, c'est régulièrement, et je sais que ça fait racoleur, mais c'est pour ça que je prends juste les vendredis parce que j'aime cette heure-ci. Et on rencontre des gens, on apprend des choses. Aujourd'hui, entre autres, on va mettre Annabelle au défi. Elle qui nous a parlé de synergologie tout l'été, tous les lundis à cette heure-ci. Je disais, oui, OK, Mme Boyer, là, ça va bien. Hein? On a des règles, on a des habitudes, des réflexes. Mais lorsqu'on est handicapé, lorsqu'on bouge différemment, lorsqu'on ne sait pas où regarder, j'imagine qu'on vous déjoue. Semble-t-il que non. Vincent, lui, qu'on croyait ne plus revoir de la saison, a gentiment, à pied levé comme ça, dit oui pour venir nous parler de téléphone et de son accessibilité. Pourtant, moi, je trouve que le cadran, là, où tu comptais le nombre de trous, c'était tellement accessible.
Oui, puis c'était l'endroit où personne ne savait que tu étais aveugle.
C'est vrai, entre autres. Et Laurence Ellie, qui va chanter en Abitibi, elle qui fait partie d'un des nombreux festivals, va nous causer un petit peu de peut-être ses liens avec l'Abitibi, son album depuis le printemps dernier, maintenant sur les tablettes. Également, Laurence qui animait à la radio cet été. On va voir comment tout ça s'est passé pour elle. Semble-t-il que ça va se poursuivre cet automne en plus d'une tournée française. Alors, occupé pour quelqu'un qui, somme toute, n'est pas très, très connu. C'est, moi, je trouve ça beau, la persévérance, la passion. Et on va regarder ça avec elle. Jean-Sébastien, bonjour.
Salut.
Comment allez-vous?
Très bien, vous-même.
Ah, êtes-vous aussi chialeux que moi ou moins?
De nature, oui, mais aujourd'hui, ça va.
OK, je vous bats aujourd'hui. je voulais savoir, madame et messieurs, bon, c'est Hugo Dumas qui m'a lancé là-dessus, lui qui écrivait brièvement vendredi, qui en parlait plus longuement ce matin à C'est pas trop tôt, ici Radio-Canada Première, de cette tentative de remanier les bulletins d'information dans les généralistes québécois, donc TVA et ici Radio-Canada Télé. Et, entre autres, les bulletins de 22 heures, à partir de la semaine prochaine pour TVA. Sophie Thibault n'a plus de télésouffleur. Elle va se balader. Une fois la nouvelle expliquée, elle va aller chercher un complément d'information, possiblement à François Bouguingo, à l'International, Michel Girard, à l'économie, Sophie Durocher, à la culture et Mario Langlois, au sport. C'est ce que Hugo Dumas avançait ce matin comme non présumé. Et TVA a perdu à peu près 500 000 auditeurs en quelques années de son bulletin de 22 heures. Radio-Canada, une énième tentative. On va remanier le vendredi soir. Et évidemment, les habitudes ont changé. Et ce que Dumas expliquait, c'est que le défi est de taille parce qu'on doit créer un bulletin d'information qui va intéresser ceux qui ont été alimentés toute la journée par les réseaux sociaux, et ceux qui, comme moi, ne sont pas très réseaux sociaux et qui veulent apprendre la nouvelle. Donc, c'est vraiment pas le traitement, le même traitement. Vous, si je prends vous trois, je présume que vous faites partie de la première cohorte, là, c'est-à-dire ces gens qui regardaient régulièrement durant la journée ce qui se passe ici et ailleurs.
Bien, c'est certain que personnellement, je me tiens informée de ce qui est publié sur les réseaux sociaux, tant sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Google. Mais c'est certain que quand je vais m'asseoir, donc réserver un temps précis pour aller regarder un bulletin de nouvelles, c'est parce qu'on me propose quelque chose que je ne peux pas trouver sur les réseaux sociaux ou parce que j'ai quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'a informé d'une entrevue spéciale qui a lieu le soir même à RDI ou à LCN ou à une des chaînes spécialisées. Donc, quand je suis informée par les réseaux sociaux qu'il y a une entrevue que je n'ai pas accès autrement qu'en allant regarder la télé, là, à ce moment-là, je vais prendre le temps de m'asseoir.
OK, donc c'est presque un rendez-vous provoqué.
Tout à fait.
Pas un rendez-vous, disons, régulier.
Non.
OK. Est-ce qu'il y en a, par contre, pour qui le bulletin de nouvelles est encore un rendez-vous? J'entends par là le bulletin télévisé.
Non.
Non?
Non, moi non
Vincent
plus.
Moi, je
l'écoute jamais.
OK.
De toute façon, j'ai même pas de télévision.
Souvent, ça. Ah, OK, d'accord.
Mais si j'en avais une, ça serait pas pour regarder ça, quoi. C'est, je trouve pas ça intéressant dans le sens que l'information qu'on peut y trouver, on la trouve effectivement ailleurs. Mmh. Et puis, sur la qualité aussi, je pense qu'on a aussi une baisse du niveau journalistique général où à poursuivre plusieurs cibles dans l'information, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, entre ceux qui savent déjà et puis ceux qui s'informent par ça, il y a déjà un grand écart à faire. Ouais. Puis on est aussi dans un monde très marchandisé où l'information, eh ben, c'est une marchandise comme une autre. C'est aussi un moyen de faire passer en les gens entre deux pages de publicité. Et puis, je pense qu'aussi, on a une espèce de consensus un peu mou dans notre société qui fait que l'information est même pas très... n'est pas là pour discuter des vrais enjeux ou des vrais débats de société. Elle est là pour organiser un petit ronron dans un ring bien défini, mais qui ne pose pas des questions fondamentales ou qui ne va pas chercher... Une alternative à la compréhension des choses. Donc, je trouve ça pas très, très utile.
Quelle serait une alternative à la compréhension des choses pour vous?
Il y a beaucoup de sujets d'actualité ou moins d'actualité, de profondeur en géopolitique, en énergie, en compréhension des phénomènes migratoires, etc., qui méritent un peu plus de traitement que simplement un immigrant a fait ça ou un autre a été rejeté, ouais. Ou les chiens écrasés, quoi, finalement. Mm-hmm. Et puis pareil pour les enjeux sur l'Ukraine, les enjeux sur la Syrie, les enjeux sur la Libye. On a une information qui est quand même très d'écume, qui est, par contre, on se fait plaisir. Il y a une ambiance journalistique, il y a une ambiance reporter, il y a une ambiance regarder comme on est beau et mm-hmm. comme on prend des risques. Et ce qui est vrai, hein, faut pas non plus, je veux pas dire que tout ça est complètement inutile, mais ça ronronne, ça dort un petit peu. Et si on veut s'informer sur le fond des choses, il faut prendre le risque d'aller sur l'Internet. Et quand je dis le risque, c'est de faire le tri, d'user de son propre discernement pour louvoyer entre les théories du complot, les vrais complots, les exagérations des uns ou des autres, et puis se bricoler, puis ne pas s'auto-intoxiquer soi-même dans la perception des informations qu'on trouve.
Je reviens avec ce que vous disiez, Annabelle, à savoir, lorsque quelqu'un peut ajouter quelque chose à ce que je sais déjà, ça risque de m'intéresser, et en vous écoutant, je me disais qu'effectivement, souvent, moi, la section du téléjournal que je préférais, c'était, supposons, lorsqu'on avait cette journaliste francophile de Toronto avec Lisa Frula. Et donc, lorsqu'on faisait, supposons, le point où, lorsqu'on ajoutait des entrevues dans le cadre du téléjournal, plutôt que la nouvelle en question, mais peut-être que le risque, là, c'est de trop se fier aux commentaires d'une personne plutôt que de se faire sa propre idée.
Bien, c'est sûr qu'il ne faut pas aller chercher quelqu'un qui n'est là que pour commenter. Mmh. Ça prend un expert. Parce que dans la journée, la nouvelle a été mâchée, remâchée, remâchée. Parce qu'évidemment, tu as les chaînes de nouvelles spécialisées, il y a les journaux, il y a les réseaux sociaux, il y a les radios. Donc, la nouvelle a déjà été pas mal remarchée. Donc, ça nous prend quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée et qui va nous tracer un portrait. Quand Normand Lester nous explique une situation d'un complot espionnage hyper compliqué, il a le don de nous le rendre simple, c'est schématisé, on est capable de le voir, de le visualiser dans notre tête, mm-hmm. même si on l'entend à la radio. Donc, quand on a des gens qui viennent nous expliquer de façon concrète quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui se passe dans un autre pays dont on ne connaît pas bien la culture, entre autres, mais qu'on a quelqu'un qui a habité dans ce pays-là ou qui est spécialisé dans ce pays-là et qui vient nous l'expliquer, là, on a une valeur ajoutée. Ouais, c'est pas quelqu'un qui vient juste commenter parce qu'il est bon pour parler à la télé ou à la radio, mais quelqu'un, exactement, mais quelqu'un qui a vraiment une spécialité, là, ça devient intéressant.
Et c'est peut-être justement le désavantage d'une formule où ce sera les mêmes personnes à qui on octroie une catégorie, un sujet donné, et si jamais c'est économie, ce sera toi, si jamais c'est sport, ce sera toi. Je pense que Mme Dussault le fait un peu, ça, ce que vous venez de décrire, à savoir essayer de prendre la personne qui soit est au cœur de la nouvelle, un politicien qui s'est mis le pied dans la bouche ou quelque chose comme ça, ou encore un prof, mais c'est dans un réseau spécialisé, là. Il faut avoir le câble. Jean-Sébastien, je sais pas, vous, si je voulais vous intéresser et j'étais directeur de la programmation, qu'est-ce que je devrais mettre dans mon bulletin?
C'est une très bonne question, et je ne sais pas tant si c'est sur le contenu même qu'on irait chercher les gens qui, peut-être comme moi, n'ont pas pris cette habitude-là de regarder le bulletin de fin de soirée, mais c'est qu'avec avec l'avènement des technologies puis le fait qu'on puisse maintenant regarder ce qu'on veut quand on veut, ça devient plus contraignant d'essayer de fixer un rendez-vous versus justement avoir accès à soit les réseaux sociaux ou la presse écrite, ou encore même pour ce qui est des émissions. Il y a plusieurs chaînes de télé maintenant qui permettent d'écouter en différé les émissions quand on veut et non seulement à telle heure. Pour ce qui est d'un bulletin de nouvelles, faire cette formule-là, d'écouter un bulletin de nouvelles quand on veut dans une période de 24 heures, ça fait pas encore l'unanimité.
Mais si on l'écoute pas à 22 heures, on l'écoutera sûrement pas le lendemain, là.
Il y a fort à parier, exactement. Donc, c'est quand même un cas assez unique, mais c'est tellement une habitude qui est rendue ancrée de maintenant essayer de faire fonctionner le monde autour par rapport à notre horaire et non pas se conformer à l'horaire qu'on nous impose. Je ne sais pas comment on pourrait m'intéresser vraiment ou comment on pourrait me fixer un rendez-vous qui me dirait « oui, je vais m'asseoir, je vais aller écouter ça ». Peu importe la qualité de reportage qu'on y retrouve, là, c'est peut-être plus dans la forme que dans le contenu.
Est-ce que les bulletins sont appelés à disparaître, selon vous, à la télé? Et qu'on relègue ça aux canaux spécialisés uniquement? Lorsque V a fermé sa salle des nouvelles, tout le monde a réagi très, très fort, mais on se rend compte que... finalement, c'est peut-être plus l'offre télévisuelle que l'on recherche.
Non, mais c'est vrai qu'il y a les formats. Et comme tu disais, il y a quand même une problématique qui est qu'on consomme à des moments qui sont les nôtres. On a la maîtrise de du choix du moment de consommer. Mmh. Ça, c'est une chose. Mais la chose de fond, c'est quand même le contenu lui-même. C'est qu'il y a aussi un désintérêt, pas seulement pour des raisons pratiques, une raison d'horaire ou des raisons... Si c'était vraiment intéressant, si on s'enrichissait réellement à lire à écouter des bulletins de nouvelles, il est possible qu'on ferait l'effort.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est complètement vrai ce que je dis là. Est-ce qu'on se mettrait à faire l'effort maintenant parce qu'on apprendrait qu'il y a des choses à apprendre? C'est peut-être trop tard, ou on est peut-être sur des plis qui sont difficiles à défaire. N'empêche que c'est quand même, à mon avis, ça l'enjeu. Il se trouve que l'information un petit peu désuète qu'on peut trouver dans un journal télévisé rentre en concurrence avec des choses, avec des formats différents, avec des formats plus simples, plus faciles à consommer, qui font moins réfléchir aussi. Donc du coup, il y a une espèce de paresse humaine facile à suivre. Mais le contenu lui-même a perdu aussi de son intérêt. C'est-à-dire que si on veut s'informer sur des sujets un peu lourds, au sens qu'il y a une profondeur, ça prend des efforts. Ça, c'est obligatoire. Alors ces efforts, on peut les faire soi-même en piochant à droite à gauche. On peut les faire en lisant des journaux de fond sur des articles. Mais,
oui, il ne faut pas demander non plus au téléjournal de tout faire pour nous en une heure.
Mais il faut que ça existe. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant. Ouais. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Moi, la télévision, je la regarde que de temps en temps quand je suis à l'hôtel. Et à chaque fois, je la regarde en me disant « mais qu'est-ce que je fais bien de ne pas en avoir ?»
Ma crainte, par contre, c'est qu'on prenne pour acquis que tout le monde l'a su durant la journée sur les réseaux sociaux et qu'on ne prenne plus le temps de me l'expliquer. Le moment venu.
Et que soi-même, on n'aille plus faire l'effort d'aller chercher l'information sous prétexte que tout le monde le sait, donc j'ose même plus poser la question.
Ouais.
Et puis, une nouvelle chasse l'autre.
On verra bien, en tout cas, où tout ça va nous mener. Souhaitons que ce soit pour l'amélioration de la connaissance plutôt que uniquement la code d'écoute, bien qu'on comprenne que ce soit pour le privé ou le public. C'est des publicitaires et ça prend de l'argent pour faire opérer ces grosses machines-là. Vous allez nous parler téléphone, alors on écoute Isabelle Blais qui reprend Ferrer.
Divine, mais son cousin, il est malsain.
Jean-Sébastien, savez-vous si Caïman Fou existe toujours?
Savez-vous c'est si... une recherche que je peux faire,
ben
mais
oui,
je l'ignore.
Je suis curieux, il me semble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu du nouveau Isabelle Blais et son groupe Caïman Fou. On l'écoutait ici sur le Allô Nino, ce disque lancé il y a quelques années. Alors, M. François, Vincent de son prénom, on voulait regarder aujourd'hui l'accessibilité et la mobilité téléphonique. Et lorsque j'ai posé la question, il y a quelques mois de cela, à des gens qui, comme vous, connaissent ça, on me disait, pour les personnes handicapées visuelles, même si c'est plus coûteux, tournez-vous vers la gamme de iPhone parce que c'est plus facile d'utilisation. Est-ce que c'est encore vrai?
Bon, ben voilà, ma conclusion est faite.
Ah ouais?
Non, c'est assez vrai. C'est assez vrai parce qu'on retrouve dans l'univers Apple, l'univers de iPhone, iPad et iTruc, une finition et un rendu final, une harmonie entre les applications qui est quand même bien agréable pour l'utilisateur et notamment pour les utilisateurs en situation de handicap qui ont en plus des choses supplémentaires à apprendre à l'usage. Et on est bien content d'avoir des fonctionnements qui sont les mêmes d'une application à l'autre. Et en plus, il y a un rendu final de les voix, par exemple, de la façon d'utiliser. Il y a des différences en termes d'ergonomie qui sont bien agréables et qui coûtent plus cher, quoi qu'il coûte.
Ouais,
je ne sais pas si c'est ça qui coûte, mais on paye plus cher.
Bon, est-ce que Siri, c'est aussi révolutionnaire que ça en a l'air? Il y a des gens qui me disent, ben là, avec la commande vocale, tu cherches quelque chose, Siri va tout te donner. Finalement, tu n'es presque pas obligé de connaître le fonctionnement parce que Siri va le faire pour toi.
Effectivement, on a un progrès majeur avec les interfaces. Tout à l'heure, on parlait du téléphone de quand on était né, qui était un cadran qu'on tournait et puis qui faisait glou 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 en revenant. Moi-même, j'ai connu à la campagne en France des cadrans où il n'y avait pas de numéro. On tournait tout pour générer un petit peu d'électricité pour que la paire téléphonique soit capable d'avoir un peu de courant pour pouvoir passer une voix où on disait « Pouvez-vous me passer tel numéro à Paris ?» quoi. Et ça, c'est un souvenir de très, très jeunesse. Uh-huh. On est passé ensuite à des trucs qui tournaient, ensuite à des boutons. Maintenant, on a des interfaces tactiles et puis on a des interfaces vocales dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle va nous parler, elle va nous dire ce qui est lu à l'écran avec un lecteur d'écran, avec VoiceOver, par exemple, sur iOS ou TalkBack sur Android. Et puis, on a des outils comme Siri, des outils de prise de commande vocale auxquels on s'adresse et dans un langage qui est de plus en plus humain, qui est donc plus en plus de la conversation. L'outil est capable de contextualiser ce qu'on lui demande. Donc, quand tu lui dis rendez-vous avec un tel, il va comprendre que c'est bien avec sa maîtresse qu'on a rendez-vous avec son service.
Et garder quand même la discrétion.
Et peut-être éventuellement, il y aura des options de discrétion pour les partages de calendrier. Tout est possible. Mais effectivement, avec des outils comme Siri, on est capable de lui demander un itinéraire, on est capable d'ajouter un événement dans un calendrier, on peut interroger son agenda avec des phrases qui sont de plus en plus simples. On peut arrêter, démarrer des services, le Bluetooth, le Wi-Fi. On peut faire, évidemment, dicter. Ça, je trouve ça très agréable. Dicter, consulter, rechercher, répondre, envoyer des messages textos.
Est-ce qu'Android, sa version de Siri
Non, c'est pas aussi avancé. Il y a quelques applications qui permettent de faire ce genre de choses, mais qui ne sont pas natives et qui n'ont pas le niveau d'avancement de Siri. En tout cas, moi-même, je n'ai pas vraiment utilisé. Et ça, c'est pas en pointe. Ils ont un outil qui s'appelle TalkBack qui fait lui lecteur d'écran.
Ouais.
Que je trouve un petit peu encore un peu compliqué, que je sais que les utilisateurs aveugles n'utilisent très très peu, sauf des gens qui utilisent pour le plaisir d'apprendre et de découvrir des outils et de tester et de pour l'usage normal non technicien d'un téléphone, on va plus facilement vers des machines iOS.
Et comment expliquer cela étant donné que la majorité vont utiliser disons, les interfaces de type Windows. Parce que ce soit des revues d'écran ou sont plus, disons, plus fréquemment compatibles avec Windows.
Oui.
Et malgré cela, malgré que dans le quotidien informatique, on utilise Windows, on nous suggère quand même d'aller vers un iOS pour le téléphone.
Alors effectivement, d'abord, pourquoi on utilise tous les mêmes choses? Ben, parce qu'on est des individus, justement pas des individus, on est des animaux grégaires et on utilise ce que tout le monde utilise, ça c'est un grand classique humain. Qui nous protège dans certains cas et qui nous empêche d'apprendre et d'évoluer dans certains autres. Mmh. Et effectivement, l'environnement classique sur un PC, c'est d'utiliser Windows pour une personne aveugle, c'est d'utiliser Windows parce que JAWS, qui est aussi remboursé par le gouvernement, ouais, a été fait pour ça. Et pourquoi ils ont fait ça pour ça? Ben parce que c'est là qu'il y avait le plus d'utilisateurs. Donc les utilisateurs vont vers ça, vers Internet Explorer.
Ouais. C'est high grade. C'est le principe de la saucisse.
C'est-à-dire
plus de gens en mangent parce qu'elles sont plus fraîches, et elles sont plus fraîches parce que plus de gens en mangent.
Exactement. Ouais. Alors, est-ce qu'elles sont plus fraîches dans le cas de Windows? C'est tout à fait discutable. Parce qu'une fois que vous savez que les gens viennent acheter vos saucisses, ouais, bah, pourquoi vous embêter à en faire des fraîches
hein, ouais. Surtout donc, Windows 8. Là.
Ouais. Alors, il y a ça aussi. Bon, donc après, il y a des comportements marketing. Et puis, quand il y a un produit qui est un peu meilleur, pour qu'il perce, il y a besoin soit d'un changement de paradigme complet, ouais, quand on passe de l'ordinateur à la tablette ou au téléphone. C'est là que ça a permis à des outils comme... Ils étaient les premiers aussi. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, les téléphones cellulaires intelligents, c'était essentiellement Apple et mmh, iOS. Donc, le nouvel environnement a pu se développer là-dessus et passer de... Ça explique pourquoi on passe de Windows sur les machines, les ordinateurs, à iOS sur les téléphones. C'est parce que ce n'est pas les mêmes machines. Et donc, il y a un saut tellement important qu'on est prêt à faire des efforts de ce goût-là.
Annabelle, Jean-Sébastien, vous avez quoi comme téléphone? Est-ce que vous êtes de type Apple avec le i ou vous êtes plutôt de type Android?
J'ai un iPhone.
OK.
Je suis sur Android avec une version très bas de gamme d'un téléphone et mon prochain achat va être Apple.
Ah oui. Est-ce que, Annabelle, vous avez déjà flirté avec Android ou...
Non. Okay. Non, j'avais des amis qui en avaient et je trouvais pas ça intéressant pour moi. Je trouvais ça difficile d'utilisation. Et c'était la version là, avec les petits pitons tout petits, là, un peu comme un BlackBerry. Là. Mm-hmm. Pas du tout agréable. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise avec un iPhone. Puis souvent, mes enfants ont tendance à jouer avec. Le iPhone, ça va bien. Ils se retrouvent facilement. Les applications sont faciles aussi. Donc, oui.
Mis à part, bon, en général, ce qu'on comprend, donc, c'est que l'iOS, Apple... Mais est-ce qu'il y a quand même des avantages, bien que limités, à utiliser d'autres types d'exploitation?
D'autres
comme le Windows ou...
En termes d'accessibilité, il y a quand même un léger avantage à iOS. Et il se trouve que les gens qu'on côtoiera sont plutôt sous iOS, donc c'est plus facile de trouver de l'aide, c'est plus facile de trouver les intervenants qui savent, etc. Ouais. Et la dernière chose qu'on a envie de faire quand on a une nouvelle machine, c'est se retrouver tout seul, mais vraiment tout seul, à dire, mais avec des gens qui te regardent en disant « Mais pourquoi tu as choisi ça ?» Et puis c'est des dépenses qui ne sont pas anodines, donc il y a un côté angoissant avec ça. Non, je pourrais pas dire qu'il y a des avantages qu'on ait sur les autres, hormis le prix.
C'est vrai.
C'est aussi peut-être qu'un avantage, c'est que on a avec Android des machines un peu plus puissantes en ce moment. C'est-à-dire que iOS et les iPhones, après iPhone 5, ils ont commencé à s'endormir un petit peu, à faire iPhone 5 qui brille, iPhone 5 avec couvercle, iPhone 5. Quoi. C'est-à-dire que bon, on a mis comme des paillettes autour d'un produit qui évoluait pas. On nous a revendu le même produit avec un connecteur un peu plus gros, avec un nouvel... Il fallait racheter les...
C'est vrai, ça.
On oublie vite. Le citron, ils arrivent à le presser assez efficacement.
Ça serait une bonne raison de faire un pied de nez à Apple, par exemple. Oui. Lorsqu'on nous oblige avec les petites prises à
racheter tout l'environnement.
C'est pas encore confirmé, mais prochain iPhone, il y a des rumeurs comme quoi qu'ils veulent instaurer un nouveau type de connecteur audio.
Tiens donc.
Donc, ils ont acheté la compagnie Beats, qui est en tout cas des écouteurs très populaires. Puis, ils veulent changer la prise audio que tout le monde a pour des écouteurs pour un nouveau type de connecteur. Mm-hmm. Donc, encore une fois. Là.
Et... est-ce qu'on avait déjà été obligé de s'acheter un nouveau chargeur ou c'était juste la prise du casque d'écoute là, qui a fait tant jaser?
Du 4 au 5, je crois qu'on a acheté un nouveau chargeur.
Ah oui, hein?
Alors. Oui, moi, mon téléphone et mon iPad n'ont pas la même prise de chargeur. Mmh. Moi, j'ai un réveil matin sur lequel je peux brancher mon cellulaire. Alors évidemment, si je change de cellulaire, le réveil matin ne marche plus avec... Voilà.
Vincent-François, est-ce que... Ils peuvent nous justifier cela? Est-ce qu'il y a eu peut-être une accélération des données parce que ce type de prise-là est plus rapide? Ou J'essaie de
comme je cherche, pour se moquer, là, c'est une révolution. Donc, ils ont fait une révolution, un nouveau chargeur avec un nouvel appareil qui fait le même service. Et c'est ça Apple aussi, je veux dire, ils font des produits de qualité, mais ils savent aussi faire un excellent marketing qui est quasiment d'ordre religieux, ce qui fait que on accepte de repayer des choses comme on a accepté des choses à l'époque des religions de nous faire croire des choses incroyables.
Okay.
Mais les produits sont bons quand même, ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce qu'on est prêt à payer plus pour un service dont qu'on utilise tous les jours et dont on est content? C'est raisonnable dans certains cas. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Ben ça, c'est à chacun de le savoir.
Ben justement, je la pose la question. Pourquoi prétend-on qu'il est presque impossible de vivre sans téléphone cellulaire? Là, j'entends vivre superficiellement. Là, on s'entend là, que ce n'est pas de vie ou de mort. Là. Mais pourquoi je devrais ou je pourrais vouloir avoir un téléphone cellulaire?
Ben, la première raison, c'est pour ne plus avoir à répondre à la question « Pourquoi tu n'en as pas ?»
OK.
Ça, c'est quand même un confort agréable.
Tout à fait. Écoutez, je ne sais pas quoi répondre à cet argument-là.
Et ne pas passer pour le réfracteur. On n'aime pas passer pour un vieux dépassé. Mm-hmm. Et on n'aime pas passer non plus pour quelqu'un qui râle, qui refuse la technologie et qui pourrait même donner une mauvaise conscience aux gens qui en ont pris un sans savoir pourquoi.
Ouais.
Et qui se disaient, tiens, c'est vrai, si j'y réfléchissais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon, ça, il y a de ça. Mm-hmm. Après, il y a une course technicienne depuis un bon siècle à toujours avoir, à posséder, à connaître la nouveauté pour être plus rapide, pour être informé plus vite. Ça rentre avec l'idée de, est-ce qu'on va pouvoir me joindre? Est-ce que les enfants peuvent me joindre? Est-ce que je peux joindre les enfants pour des raisons de sécurité? Gna gna gna. Moi, ça m'a toujours fait un peu rigoler. Je veux dire, il y a 1000 générations d'humains avant nous qui n'avaient pas ça et c'était pas nécessairement.
Non, mais ils faisaient des signaux de fumée. Ils avaient leur façon.
Et après, il y a un effet d'engrenage. On en a un, donc on s'en sert parce qu'on l'a payé cher. Donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc on commence à développer des habitudes et puis on est un peu pris avec. Et puis après, ça devient un réflexe. On l'ouvre, on regarde dans la poche s'il y a quelque chose de nouveau.
OK, dernière question. Moi qui suis aveugle, je prends le meilleur, l'iOS, là, puis tout ça. Là. Est-ce que je peux facilement aller chercher un article du New York Times qu'on me suggère ou ça va me prendre 35 minutes parce que je dois d'abord l'allumer, après ça, trouver une façon d'aller sur Internet, après ça, trouver le site du New York Times, mais il n'y a pas de clavier, après ça, trouver le bon cahier dans lequel l'article se trouve, et là-dessus, il y a de la publicité. Est-ce que c'est si agréable que ça?
Je décomposerai tout ça en deux étapes. Le démarrage et aller sur le web, c'est très simple.
D'accord.
Ensuite, c'est la même chose que sur le web normal à partir d'un ordinateur. C'est-à-dire que tu vas chercher New York Times... soit en commençant à taper NYT sur le clavier qui va vite te compléter en newyorktimes.com, etc., surtout si tu l'as déjà visité.
Ouais.
Et ensuite, tu vas te retrouver sur le site de New York Times. Alors là, est-ce qu'il y a des outils de recherche efficaces? Est-ce qu'on t'a fourni le lien dans un courriel, tu as juste à le suivre?
Ah ben là.
Ou est-ce qu'on t'a dit, il y a un article, tu sais, c'était au mois de juin, et je crois que ça parle d'un sujet, mais je ne suis pas très sûr.
Okay.
Voilà, après là, c'est l'usage normal du téléphone, du téléphone, de l'Internet. Rien n'est acquis.
Mon bulletin de 22
ans. Il y en a encore.
Qu'est-ce que vous me disiez, là, Jean-Sébastien? En parlant de Caïman Fou, après la chronique, vous m'avez susurré quelque chose dans les oreilles?
Que j'attendais que la chronique soit terminée.
Pour nous donner l'information, mais pas pour nous faire entendre une chanson.
Non, parfait. Dernier album est sorti en 2012 à des milles, à l'octobre. Sinon, ils font encore des spectacles.
OK.
Mais pas d'annonce de nouveau matériel.
Non, mais s'ils sont toujours ensemble...
Oh, ils sont encore tous amis.
On écrit, puis un moment donné, ça va ressurgir. Quelques mesures ensuite avec Annabelle. On regarde ce que le non-verbal laisse percevoir lorsque le non-verbal est émis par une personne qui peut-être bouge différemment de la majorité. Annabelle Boyer, je croyais vous avoir lancé un défi de taille, mais vous me disiez que plusieurs déjà s'étaient penchés sur la question.
Oui, en fait, il y a eu plusieurs. Évidemment, à chaque fois que des synergologues terminent le programme de synergologie, ils doivent déposer un rapport d'observation sur un sujet. Fait qu'évidemment, il y en a qui se sont penchés sur des sujets un peu plus pointus, que ce soit les gens qui ont, par exemple, le syndrome d'Asperger, des gens qui ont fait un ACV et qui sont paralysés du côté gauche de leur corps, des gens qui sont aveugles. Donc, évidemment, il y en a qui ont poussé un peu plus loin certaines notions qui avaient déjà été avancées par Philippe Turchet, parce que Philippe l'avait déjà observé sur plusieurs dizaines de vidéos, mais là, il y a des gens qui se sont penchés spécifiquement là-dessus. Puis c'est sûr que quand on est synergologue puis qu'on observe un temps soit peu autour de soi, il y a évidemment certaines choses qui nous sautent au visage. Anecdote, j'étais allée rencontrer un client ici sur l'île de Montréal. Je rentre dans le bureau, la réceptionniste qui me reçoit va m'annoncer auprès de ma cliente. Et évidemment, elle se lève, au lieu de prendre le téléphone, elle se lève et elle marche jusqu'à la salle de conférence. Et en la regardant marcher, quand elle est revenue, j'ai demandé « Qu'est-ce que vous avez à la hanche? » Et la dame me regarde puis elle dit « Comment vous le savez? » Mais je dis, votre démarche est modifiée. Vous avez quelque chose à la hanche gauche. Qu'est-ce que vous avez à la hanche? Elle dit, madame, elle dit, ça fait 15 ans que je travaille ici. Il n'y a jamais personne qui l'a remarqué.
OK.
Donc, il y a déjà des choses qui sont là. C'est juste que, généralement, les gens ne portent pas attention, ils ne regardent pas. Pourtant, des signes, il y en a plein. Et si vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui avait un handicap quelconque, une maladie, une limitation, nécessairement, vous avez été habitué à observer, à regarder, et quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes encore avec quelqu'un qui a exactement la même limitation, vous allez le remarquer, alors que les autres autour de vous ne le remarqueront pas.
Mais j'imagine que dans le non-verbal, comme dans bien d'autres choses, il y a un principe de mimétisme.
Oui.
Et lorsqu'on n'est pas habileté à le mimer de la même façon, ça ne devrait pas, il me semble, vous lancer une balle courbe plus difficile à frapper?
Bien, en fait, là où on va avoir du mimétisme, pour les gens qui connaissent le film Shrek, quand le chat poté se replie un peu, ouvre grand les yeux, puis fait un beau petit minois parce qu'il voudrait donc qu'on réponde à sa demande, ma fille fait exactement la même chose parce qu'elle l'a vu faire dans un film.
Ouais.
Ce qu'on ne retrouvera pas chez quelqu'un qui, évidemment, ne peut pas voir.
Mm-hmm.
Mais chez les aveugles, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour le reste, le non-verbal est identique. Ils vont avoir des démangeaisons, comme un voyant. Ils vont avoir ce qu'on appelle des chimères, donc des micro-expressions, des petites contractions du visage qui sont de toute façon des spasmes musculaires, donc ils ne peuvent pas les contrôler. On va avoir un mouvement de position sur la chaise exactement que un voyant, parce que c'est en fonction du fonctionnement du cerveau. Donc, quand vous n'êtes pas à l'aise avec une situation où vous avez besoin de prendre du recul, vous allez vous reculer dans votre chaise. Inversement, vous avez un intérêt pour le sujet, vous allez vous avancer vers l'avant. Donc, c'est vraiment en fonction du fonctionnement du cerveau. Chez les aveugles, on a exactement les mêmes comportements que chez les gens qui voient. Là où on a des différences, c'est par exemple les Asperger. Les Asperger, il faut se rappeler que l'Asperger, c'est une forme d'autisme. On va avoir évidemment des Asperger qui sont très fonctionnels, donc ça paraît très peu, ils fonctionnent tout à fait bien dans la société, puis on va avoir des gens qui ont un peu plus de difficultés. Chez les Asperger, par contre, c'est une synergologue psychologue qui avait fait le rapport, ce qu'elle avait observé, c'est que les Asperger ont tendance à regarder majoritairement leur interlocuteur avec l'œil droit.
Ah.
Parce que pour un Asperger, vous parlez, vous écoutez, puis regardez votre non-verbal en même temps, c'est trop d'informations à traiter.
Okay.
Donc, il va se concentrer. Quand il vous parle, il vous regarde avec son œil droit, donc avec le côté droit du visage. Donc, on est plus dans un certain contrôle du discours. Il fait attention à ce qu'il dit.
Ça, c'est l'hémisphère gauche qui travaille, là.
Exactement. Okay. Donc, le contrôle du langage. Mais quand vous lui parlez, il vous regarde peu. Généralement, il va fixer un autre point. Parce que vous écoutez, puis regardez votre non-verbal, c'est deux zones du cerveau qui sont stimulées en même temps, c'est trop mêlant. Donc, l'Asperger, il vous regarde avec son œil droit quand il vous parle, puis il vous regarde peu quand c'est vous qui lui parlez. Et on va avoir très peu de gestes du corps, donc peu de mouvements de mains, peu de mouvements de sourcils, peu de mouvements de bouche, peu de déplacements sur la chaise, parce qu'il se concentre, il concentre toute son attention sur ce qu'il est en train de dire. Les Asperger, souvent, vont avoir un ton de voix qui est monocorde.
Oui, oui.
C'est un peu fatigant quand on écoute, hein? Parce que c'est des gens qui parlent exactement toujours sur le même ton.
Oui.
Évidemment, on va remarquer chez les gens qui sont en face un certain malaise. parce que c'est bizarre de se faire regarder continuellement avec l'œil droit, puis avec quelqu'un qui ne bouge pas du tout, puis qui vous parle toujours sur le même ton. Mmh. Mais ça, ça nous donne un bon indice, généralement, que là, il y a une difficulté. On a regardé aussi les gens qui, évidemment, ont reçu un diagnostic, qui ont eu un ACV, mmh. qui ont une paralysie du côté gauche. Puis évidemment, si on a une paralysie du côté gauche, on s'entend que la main gauche, elle ne pourra pas bouger.
Ouais.
Donc, même dans la spontanéité, la main gauche ne pourra pas s'activer. Ce que les deux synergologues ont observé, puis les deux synergologues qui ont fait le travail, il y en a une qui est neuropsy et l'autre, elle est travailleuse sociale. Donc, c'est des gens qui sont très solides et qui travaillent dans un centre où il y a des gens qui ont eu un ACV. Puis ce que les filles nous racontaient, c'est que les gens qui sont complètement paralysés du côté gauche, ce qu'ils vont faire, c'est que s'ils en ont besoin, la main droite va aller chercher la main gauche pour la rapprocher ou l'éloigner du corps, dépendamment du sujet.
Quand vous dites s'il y en a besoin...
S'il est en train, par exemple, de parler d'un sujet qui les dérange et il voudrait l'éloigner d'eux, on va avoir le monsieur qui va tasser les miettes qu'il vient d'avoir sur son plateau, puis il va tellement les tasser qu'il va tasser sa main gauche aussi, puis la main gauche va tomber le long de son corps sans qu'il s'en rende compte. Mm-hmm. Inversement, il a besoin de réconfort, il parle de son enfance, il parle de son conjoint qui est décédé, il va aller chercher la main gauche avec sa main droite et il va flatter la main gauche pour se rassurer.
OK. Donc, plutôt que de simplement tout faire avec son côté droit.
Exactement.
OK.
Et on va avoir quand même des démangeaisons sur le côté gauche, mais évidemment, la personne ne peut pas aller se gratter la joue gauche avec la main gauche, donc on va le faire avec la main droite.
Mais pour les gens qui ont des problèmes neurologiques,
oui.
où là, vraiment, j'imagine le visage travaille différemment, oui. les mains, je pense à paralysie cérébrale, je pense à ataxie, Là, ça vous complique la vie.
Là où ça devient compliqué, je me souviens d'une conférence à un moment donné que je faisais où je parle du fait que quand les gens sont en épuisement ou en dépression, on va avoir un affaissement des paupières inférieures. Et il y a une dame que je remarque et je vois un affaissement du côté gauche, mais pas juste un affaissement de la paupière, il y a un affaissement même de la commissure des lèvres, de la joue en entier. Fait que c'est sûr que dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être une paralysie de Bell ou quelque chose du genre. Là. Il y a dû y avoir quelque chose.
Mais peut-être juste déprimé aussi.
D'habitude, quand c'est juste déprimé, c'est pas l'ensemble de la peau qui s'affaisse. Okay. C'est vraiment au niveau de l'œil. Alors que là, au niveau de la bouche et de la joue, j'avais un affaissement aussi. Okay. Ça m'a achalé. Évidemment.
Elle aussi.
Oui. Quand j'ai parlé de l'affaissement des paupières, évidemment, je l'ai vu réagir. Donc, je sais qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas dans ce que je dis. Donc, logiquement, elle, c'est pas ça qu'elle a. Mm-hmm. Et le reste du corps est pas cohérent. Donc, j'ai une information que là, il y a quelque chose qui est extraordinaire, qui n'est pas dans la normalité des gens.
Ouais.
Fait qu'évidemment, elle est venue me voir après la conférence. Puis elle me dit, elle commence en me disant, « Ben moi, est-ce que vous me trouvez épuisée? » Bon, déjà, son ton de voix venait de me dire que c'était pas le cas.
Ouais.
Donc, c'est sûr que j'ai pris la dame, j'ai dit, « Je pense que vous avez une autre difficulté physiologique qui est probablement une séquelle de quelque chose que vous avez eu il y a plusieurs années qui est encore difficile à vivre pour vous.
Okay. »
Elle est venue les yeux pleins d'eau. Mm-hmm. C'était en effet une paralysie de Bell, mais qui ne s'est jamais résolue totalement. Et elle reste avec ça, puis elle se trouve laide.
Mm-hmm.
Pourtant, là, c'est difficile à remarquer. Il faut vraiment porter attention. Là. Mais elle avait beaucoup de difficultés à vivre avec ça. Fait que c'est certain que pour elle, c'était excessivement difficile.
Ouais. J'ai envie d'utiliser les quelques secondes qui restent, là. On a appris beaucoup, beaucoup sur le non-verbal. J'ai pas envie de m'en préoccuper trop, mais en même temps, peut-être que je devrais. Qu'est-ce que je veux retenir et qu'est-ce que je dois laisser aller pour être bien dans ma peau maintenant que je sais que je suis observé, pas juste par la NSA, mais par Annabelle et tous ses étudiants?
Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'assumer toutes les pensées que vous avez. Quand on assume qu'on a peur d'une personne, quand on assume qu'on n'est pas bien dans une situation, quand on assume qu'on n'a pas fait le travail qu'on aurait dû puis on a procrastiné, ça ne donne rien de pogner les nerfs après quelqu'un d'autre puis d'essayer de faire passer la faute sur quelqu'un d'autre. On n'a pas fait le travail qu'on aurait dû. Dans le fond, la colère, elle est contre nous, donc arrêtons de la vomir sur les autres, puis gérons-la. Donc, d'assumer nos pensées, juste ça, ça va faire que votre non-verbal va être tout à fait cohérent. Et bien, il va y avoir moins de démangeaisons, moins de signes de non-dit, parce que vous allez mieux assumer ce que vous pensez de toute façon. Puis, il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête que de toute façon, vous n'en êtes pas conscient.
Mm-hmm.
Mon conjoint me dit qu'il y a une de ses amies qui lui disait « L'inconscient, c'est un gros King Kong. Quand même que vous voudrez bien le dompter, vous ne pouvez pas. Donc, apprenez à vivre avec. » Et juste ça, ça va être déjà une belle réalisation en soi. J'allais dire un beau défi, mais j'ai un ami qui me dirait c'est une réalisation en soi.
Oui, parce que si on apprend à vivre avec ça, on va apprendre à vivre avec un paquet de choses.
Ben c'est ça, moins d'hypocrisie, plus d'amour, plus de paix dans le monde, etc. C'est-à-dire qu'il y a, c'est des ingrédients à travers cette question de la synergologie qu'on peut retrouver dans le développement personnel, qu'on peut retrouver dans la philosophie.
Puis pour vrai, le plus gros défi, c'est justement de prendre conscience des sentiments, des émotions, des pulsions qu'on a, puis d'accepter qu'elles sont là, que c'est correct qu'elles soient là. Ça ne veut pas dire qu'elles sont agréables, ça ne veut pas dire qu'elles sont belles, ça ne veut pas dire qu'elles sont harmonieuses, mais elles sont là. Donc, d'accepter qu'on a des pensées qui sont négatives, qui sont destructrices, qui sont de l'auto-sabotage, sont là. Puis une fois qu'on a accepté qu'elles sont là, mais on peut passer par-dessus. Mais tant qu'on fait semblant qu'elles ne sont pas là, ben là, c'est sûr que le non-verbal va parler beaucoup, beaucoup.
Ouais. Merci beaucoup. Pour tout l'été. Et Vincent, ben, on vous l'a dit la semaine dernière, mais...
À lundi.
J'apprécie... non, mais ben, là, on est en congé. Alors, ça va aller. Elle sera au Festival de musique émergente de l'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement à Rouyn. On écoute Pas de promesses, Laurent Sévy. Jusqu'à la dernière note, puisque malheureusement, on n'a pas encore pu établir la communication avec Laurence, qui, je ne sais pas s'il y a déjà en chemin, vers la région plutôt nordique de l'Abitibi-Témiscamingue, là où le maringouin est de taille appréciable et la mouche à chevreuil omniprésente, semble-t-il. On va regarder un petit peu. Vous n'êtes pas chanceux, groupe du lundi, parce que ça tombe toujours sur vous. Ces réalités-là, hein, je pense que c'est la troisième fois et il me semble vraiment que ce n'est arrivé qu'un lundi. En tout cas, Vincent qui me disait, bon, ça va pour la guerre de 14, mais je ne peux pas remplacer Laurent Célie. Ça, c'est bien sûr. Jean-Sébastien, vous qui êtes un natif de l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce que le Festival de musique émergente est quelque chose que vous aimiez fréquenter? Est-ce qu'il...
Absolument. Je trouve que c'est un festival quand même assez incontournable. C'est un assez gros festival.
Ben, répondez donc, tiens.
OK, d'abord.
On présume, puisque c'est peu de gens connaissent ce numéro-là, que c'est la personne qu'on attend. Et on laissera quand même Jean-Sébastien terminer la réponse pour nous mettre... pour nous mettre la table, puisqu'on a, au cours de l'été, eu quand même pas mal de monde qui ont passé du temps en Abitibi. Donc, je vous laisse compléter, Jean-Sébastien, tout en vous saluant, Laurence.
Oui, donc, Festival de musique émergente, c'est quand même quelque chose d'incontournable. Il y a une belle proximité avec les artistes et plusieurs lieux quand même assez intimes. Puis c'est un endroit où on peut faire énormément de découvertes. C'est un festival que je trouve quand même assez unique en son genre, ouais. Mais... Avoir au moins une fois dans sa vie, si vous aimez la musique.
Ça démarre le 28, donc vendredi. C'est quand même court. Je pensais que c'était plus long que ça. C'est du 28 au 31, Laurent Célie?
Oui, bien en fait, oui, si vous le dites, mais je sais que ça se termine le 31 en tout cas.
OK. Bon, c'est ce que j'ai ici, là, du 28 au 31 du côté de Rouen. Vous serez en spectacle dimanche? Le 31?
Dimanche le 31, oui. En fait, j'ai deux spectacles cette journée-là.
Ben oui, une grosse journée.
Oui, une grosse journée. On va essayer de se garder l'énergie pour le soir. Mais oui, je suis bien contente. Deux shows, ça va être beau. Un à l'extérieur, puis un en première partie de Daniel Bélanger le soir. Donc, bien.
Jouer au Jardin botanique, bon, moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas, Jean-Sébastien, il a l'air de quoi, le Jardin botanique ou le Parc botanique Fleur d'eau? Le connaissez-vous? Ou...
Oui, le Parc botanique, c'est environ 5% du Jardin botanique de Montréal.
Ah bon?
C'est vraiment un petit parc avec des belles fleurs. C'est un petit lieu, c'est un petit parc. Ça se compare pas du tout à un des gros parcs qu'on peut trouver ici.
On ne vous lancera pas en marketing. Ben, c'est un parc avec des fleurs. C'est bon.
On va à l'essentiel.
On aime ça, oui, tout à fait. Comment allez-vous, Laurent Célie?
Ben, je vais très bien, et vous?
Oui, merci. Vous avez eu un été occupé, vous allez avoir un automne occupé. Je remarque que vous allez poursuivre Bourbon et Limonade.
Oui, je suis tellement heureuse. En fait, j'avais fait 10 émissions au cours de l'été. Et puis, ça s'est tellement bien passé. Je pense qu'il y a eu une bonne réponse au niveau du public, des gens un peu partout au Québec. Alors là, ça se poursuit pour une vingtaine d'autres émissions. Je suis vraiment, vraiment très contente de ça.
Je ne vais pas vous mettre dans l'eau chaude, là, mais habituellement, les gens qui sont sur les ondes des radios communautaires font ça bénévolement. Puis je me disais, oui. Ben, je ne peux pas croire qu'elle, avec ses occupations et tout, elle ferait ça bénévolement. Est-ce que vous avez senti, vous, il y a Catherine également, Catherine Durand, qui avait une émission sur le folk cet été au profit de l'Association des radios communautaires du Québec, est-ce qu'on a eu des remarques sur les réseaux sociaux du genre, bon, ben, ils prennent nos cases horaires parce qu'elles sont connues ou ça s'est très, très bien passé de ce côté-là?
Ah, mais pas du tout, j'ai pas entendu. Non, personne ne m'a fait ce commentaire-là. Non, en fait, mais moi, je prétends pas être une animatrice chevronnée, mais pas du tout. En même temps, je remercie la chance que justement l'Association des radios communautaires m'a donnée, parce que c'est quelque chose, c'est un rêve que je caressais quand même. Éventuellement, dans ma vie, je me disais, c'est un truc que j'aimerais faire, faire de la radio. Donc, c'est une très, très belle opportunité que j'ai. Et puis, mais non, j'ai pas... Sérieusement, je n'ai pas entendu ça encore.
OK,
donc,
parfait.
Espérons que ça n'arrivera pas.
Ben, j'imagine que si ça avait à se produire, ça aurait déjà été dit. Et tant mieux, parce que moi, vous m'avez fait découvrir des choses. J'ai finalement entendu la version originale du train qui siffle dans la nuit, là, de Paul Brunel. C'est ça, vous m'avez fait découvrir des choses... Alors,
Non, mais c'est exactement ce que je voulais faire. En fait, moi, j'écoute beaucoup de country, puis je suis allée un peu à la pêche à voir qu'est-ce que les radios de country passent beaucoup de nos jours. Et puis, j'ai décidé de... je pense que je vais aller fouiller, moi, dans les vieilles affaires. Ben, tu sais, je passe un peu de tout, là, du moderne de nos jours, mais j'ai trouvé beaucoup de vieux vinyles, puis je me suis dit que ça serait le fun de passer justement du Paul Brunel, du Willie Lamotte, du Soldat Lebrun, des trucs, tu sais, qu'on entend moins à la radio de nos jours, juste pour qu'on s'en rappelle. T'sais.
Avez-vous mis du Laurent Célie?
J'en ai mis. la personne avec qui je travaille sur Bourbon et Limonade m'a dit, tu devrais mettre une de tes chansons. J'ai jamais été capable jusqu'à la toute fin, la dernière émission, la dernière ou l'avant-dernière, puis je l'ai mis en sandwich, puis j'en ai pas parlé.
OK, parce que je sais que Corcoran, du côté d'À propos, disait qu'il trouve ça très difficile. Je pense que je l'ai entendu une fois, là, mais c'est vrai que ça doit être assez, assez gênant, mais en même temps, vous faites partie de ce que le country québécois a à offrir, donc il fallait le faire.
Bien, oui, tu sais, mais en même temps, moi, effectivement, je trouvais ça gênant, un peu malaisant, tu sais. Vraiment, je sais pas, je trouvais pas que c'était ma place de m'auto-promouvoir. Mais bon, tu sais, je m'en ai, je me suis dit, ça me tente de la mettre, puis je vais la mettre entre deux, puis je vais juste pas en parler, juste pour rien dire.
Là, je veux pas que vous soyez choqués, j'aurais pas fait ma job si je vous avais pas posé la question suivante, à savoir, est-ce que c'est votre chanson la plus connue?
On va se lever, on va s'imaginer tout l'espace qui nous appelle. On va se révéler et tout recommencer, c'est la vie qui nous rappelle. Ce sera bien chez moi, Germain, y vois, tu feras comme chez toi. Enchanté.
Est-ce que ce sont vos paroles?
Non, pas du tout.
OK. Est-ce que ça vous a aidé? Ça vous a nui? Moi, je trouve ça le fun d'avoir une voix connue. Puis vous avez une voix qui se démarque tellement, j'ai trouvé que c'est un beau flash.
Ah, bien, tant mieux. Bien, en fait, l'idée, moi, j'ai fait ça en tant que chanteuse, parce que j'aime chanter, c'est ce que je fais dans la vie. Par contre, ce n'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas là, dans le sens que c'est pas la chanteuse de Laurent Célie.
Ouais.
Ça fait pas partie de mon catalogue de mes chansons non plus, mais voilà.
Lorsque on regarde les... Bon, vous avez
C'est tout ça pour dire tout ça, ce que je voulais dire, en fait. Mais ça reste que, oui, c'est une belle chanson, puis je suis contente de l'avoir fait, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une de mes chansons.
Non, ça, c'est sûr. Mais en même temps, ça risque, une fois que les gens le savent, parce qu'ils se disent peut-être, j'aime cette voix-là, puis ils ne savent même pas qu'ils peuvent l'entendre ailleurs, parce que, bon, vous n'avez pas nécessairement la place sur les radios dites plus écoutées, là, commerciales. Et donc, ça peut peut-être vous aider. Est-ce que c'est écrit quelque part que c'est vous?
Je pense que... Je ne sais pas, en fait, si c'est écrit quelque part. C'est sûr qu'il y a des gens qui me reconnaissent et puis ça leur fait plaisir. Mais c'est ça, non, c'est pas écrit. Parce que, comme je vous dis, ça devient c'est une autre chose là, quand on est porte-parole ou si on est... Donc, c'est ça. C'est un autre truc à ce moment-là.
C'était comme l'Hôtel Saint-James, qui était, bon, une toune plus pop il y a, quoi, une dizaine d'années environ, là.
Eh oui, ça fait longtemps.
Oui, qui était autre chose, mais qui était... Moi, c'est là que je vous ai connu. Là, vous
allez dans la vie, on chante, hein, puis moi, c'est ce qui me rend heureux, je chante. Donc, à chaque fois qu'on me propose un projet, si la tune est bonne, mais pas à chaque fois, mais si la chanson est belle, puis c'est mon métier de chanter, hein, donc tant qu'à faire des choses... tant qu'à faire autre chose, je préfère chanter.
Tout à fait. Là, vous allez en France cet automne. On me dit que c'est la première fois... Ou en tout cas, votre première tournée, est-ce que le country en France s'est reçu de quelle façon?
J'en ai aucune idée.
Okay.
J'y suis jamais allée. Par contre, j'y suis jamais allée en tant que chanteuse.
Oui, oui.
Je sais pas, mais je pense que l'écho que j'ai eu, c'est que c'est une musique qui les... ils sont bien intéressés, en fait. Ils sont très curieux. Ils sont très curieux du folk country parce que je pense que ça fait pas partie, c'est vraiment de leur héritage musical. Autant que nous, tu sais, au Canada, en Amérique du Nord, le country, le folk, c'est quelque chose de très, très profond, tu sais, dans les racines musicales. Donc, pour eux, je pense que c'est quelque chose qui les intrigue beaucoup. Donc, j'ai bien hâte de voir s'ils vont apprécier ça.
Pourquoi ne pas trouver une personne, la bonne, finalement, et lui proposer peut-être une émission du type que vous faites ici, avec le même choix musical qui serait fait, mais avec un discours adapté aux Français. Vous aimez le faire, la job est presque déjà faite, Puis il me semble que ce serait une belle façon d'avoir un pied à terre.
C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Vous êtes bien business. Moi, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ça pourrait être une chose qui pourrait être faite, oui, là-bas, avec pour élargir un peu, aller leur faire connaître, en fait, notre héritage musical.
Vincent, en 10 secondes, le country en France?
Non, c'est pas dans notre culture,
non.
Mais ça peut être très apprécié par le calme de la musique que c'est, et puis par le côté un peu américain qui peut être séduisant.
Ouais. Merci beaucoup, Laurence. Bon show au pluriel dimanche, 1 à 13 heures, donc au parc botanique Fleur d'eau, et ensuite en spectacle de clôture à l'Agora des Arts, finalement, dimanche soir, en première partie de Daniel Bélanger. Bonne semaine et bon voyage là-bas.
Merci.
Et bon voyage en France également. Merci beaucoup, Annabelle. Merci, Vincent.
Merci.
Merci.
Bon automne, puisqu'on ne sera pas là lundi prochain. Jean-Sébastien, on se retrouve demain?
Ben oui.
Et bien content que vous veniez de l'Abitibi. Ça nous aura dépanné encore une fois aujourd'hui. Sophie Stanquet s'en vient avec les gens qui font la différence. Salut.